Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver à l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire sur un sujet qui fait aussi l'actualité des crises successives, crise économique, crise financière et de confiance, c'est-à-dire la gouvernance des entreprises. Et je reçois pour éclairer ce sujet, sensible sur bien des points, l'Association des dirigeants et des actionnaires d'entreprises, l'ADAE, son président Daniel Korfmatt et Marc Chambaud, administrateur, qui sont très engagés auprès de l'association pour l'amélioration de la gouvernance, à commencer à travers la formation des administrateurs et notamment des administrateurs indépendants. Messieurs, bonjour. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bonjour Marc. Alors, nous allons traiter plus particulièrement de la gouvernance des entreprises petites, moyennes et grandes, puisque c'est votre périmètre, votre cible prioritaire. Tandis que les très grandes entreprises sont plutôt approchées, d'entreprises notamment cotées, par votre partenaire, on va dire, ou votre collègue, l'Institut de formation des administrateurs, qui est, lui, présidé par Daniel Lebègue. Alors, peut-être d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, une brève présentation à la fois du président et de l'administrateur. Donc, Daniel Korfmatt, vous êtes plutôt, vous, un dirigeant financier. Vous avez eu un parcours en deux mots à travers plusieurs entreprises, j'imagine.
Alors, tout à fait. Donc, j'ai eu un parcours assez classique. D'abord, de responsable et directeur financier de groupe et de groupe coté. Et ensuite, de directeur général de société coté, de PME coté, donc jusqu'à 100 millions d'euros, et pendant plusieurs années. Donc, je connais parfaitement bien l'entreprise et la moyenne entreprise et l'entreprise cotée.
Très bien. Alors, et du côté de Marc Chambaud, lui qui est un ingénieur télécom.
Oui, je suis actuellement directeur de ma propre société conseil, que j'ai créée il y a quelques années. Je suis administrateur de plusieurs sociétés, dont deux sociétés cotées. Et c'est vrai qu'auparavant, j'étais quatre dirigeants exécutifs au sein du groupe France Télécom, où j'ai exercé des fonctions pour faire recours comme directeur de la stratégie, directeur financier adjoint et du contrôle de gestion. J'ai présidé la filiale immobilière et puis Thierry Breton m'a fait appeler auprès de lui pour diriger la fonction risque et contrôle de l'entreprise.
Donc vous avez tous les deux une expérience avérée de ces sujets sur lesquels nous allons commencer à rentrer. Alors, première question quand même, une question de contexte, crise de confiance sur les entreprises, sur leur image et sur leurs dirigeants. On va dire que ceci remonte aux années 90, en gros, quand les grandes affaires sont apparues. Alors, quel est le regard, en deux mots, que vous portez sur cette évolution? Qu'est-ce qui a fait que ça a dérapé à ce point? Le comportement des dirigeants, certes, mais aussi le fonctionnement des conseils d'administration. Et la théorie de l'agence a été remise un peu en cause, semble-t-il.
Oui, alors Daniel. Tout à fait. En fait, le gros sujet de la gouvernance en France s'est développé essentiellement avec la crise Internet, en fait. Et ce qui a poussé, effectivement, il y avait plusieurs problématiques. Il y avait d'une part la relation avec les marchés financiers, où là, on n'était pas forcément transparent. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une confusion entre les dirigeants d'entreprise avec leur développement personnel. Donc, effectivement, des sujets d'éthique et de respect de l'entité, la personnalité morale. Et puis, c'est surtout quand même nos grandes sociétés cotées, qu'elles soient françaises ou internationales, qui ont dérivé. Et c'est ce qui a fait prendre conscience les États, essentiellement d'abord les États-Unis, avec la loi SOX qui est sortie. Et derrière, bon nombre d'États se sont mis effectivement à mettre en place tout un arsenal réglementaire pour justement limiter ces abus et ces dérives. Et donc la France a réagi en mettant en place la loi de sécurité financière, donc la LSF.
Donc chaque pays, avec ses propres spécificités, a pris des dispositions pour favoriser l'amélioration de la gouvernance. Alors, avant de vraiment de regarder ce que vous faites sur ce plan, il faut peut-être présenter un peu plus la DAE, qui a été créée en 1996, si mes souvenirs sont bons. Comment vous est venue cette idée et quelles sont ses missions, Daniel Korfmatt?
Alors, écoutez, la DAE a été la première association qui a été créée en France sur le thème de la gouvernance. Et en fait, elle s'est rapidement confrontée au sujet de la gouvernance. La gouvernance au niveau des grandes sociétés, globalement, il y a des textes, il y a du droit qui est clairement identifié, même si ça n'a pas été forcément suivi dans les faits. En revanche, la gouvernance et les moyennes entreprises n'est absolument pas traitée. Et donc, il ne suffit pas de faire un copier-coller des textes qui existent aujourd'hui au niveau des grands groupes du CAC 40 pour décider ou informer les sociétés sur la bonne gouvernance à mettre en œuvre.
Alors justement, Marc, quelles sont ces spécificités des PME par rapport à la grande entreprise ? Vous qui avez été des deux côtés, c'est quoi la différence ?
Alors, moi, ce que je voudrais, c'est peut-être repositionner le débat, parce qu'on parle de gouvernance, mais souvent, on ne définit pas ce qu'est la gouvernance. Et peut-être revenir, et quand on définit correctement la gouvernance, je pense qu'on voit quels sont les fils conducteurs et les risques.
Gouvernance et gouvernement d'entreprise, pour vous, c'est la même chose?
Oui, la gouvernance, en fait, elle se définit, alors c'est un peu la définition universitaire, celle qu'on donne à nos étudiants, mais elle est intéressante quand même de la donner dans sa version courte, du moins. C'est l'ensemble des systèmes et des processus qu'une organisation, et notamment une société, met en place pour protéger les intérêts et créer de la valeur par rapport à ses parties prenantes. En anglais, ça se dit stakeholder. Ouais. Et les parties prenantes, eh bien, c'est les propriétaires de la société, les actionnaires, mais aussi, et on l'oublie parfois, c'est les salariés qui fournissent la force de travail et l'intelligence pour fonctionner la société, mais c'est les clients. Une société sans clients n'existe pas. Mais c'est peut-être aussi, et c'est sur peut-être des fonctions périphériques, mais parfois qu'on oublie, comme par exemple les fournisseurs, les sous-traitants, tous ceux qui apportent en fait de la valeur ajoutée pour le fonctionnement d'entreprise. Et donc la gouvernance doit se définir en fonction de ce tissu de relations qui sont complexes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne gouvernance ? On voit bien qu'au travers de la définition, il y a deux éclairages possibles. La bonne gouvernance, c'est d'abord avoir les bons systèmes et les bons processus de pilotage par rapport à tous ces acteurs.
Disons, là, on parle de
l'approche un peu technique de la bonne gouvernance. Mais on voit aussi qu'une bonne gouvernance, ça peut être aussi le bon équilibre entre les parties prenantes. Le capitalisme anglo-saxon se caractérise, et c'est probablement une des causes structurelles de la crise, par le fait d'avoir privilégié les actionnaires, propriétaires de sociétés, et avoir focalisé les systèmes sur la valeur donnée aux propriétaires de sociétés. Je pense que le capitalisme européen est plus équilibré. En tout cas, ça nous donne des fils conducteurs pour l'avenir, en trouvant des relations équilibrées entre l'ensemble des parties prenantes qui rentrent dans le fonctionnement de l'entreprise, notamment les salariés, les clients, pour assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà. Parce qu'une bonne gouvernance, ça doit assurer la pérennité de l'entreprise.
La pérennité de l'entreprise est quelque chose d'équilibré par rapport à l'ensemble des parties prenantes.
Exactement.
Daniel Korsman.
Oui. On a parlé de l'interne, des process internes. On a parlé de l'externe, ce qu'on appelle les externalités et les stakeholders. Mais aussi, on a découvert avec 2000-2002, mais on n'avait pas besoin de ça, c'était l'éthique. Et aussi, la bonne gouvernance est un sujet de comportement, de qualité de comportement. Dans ce cas, très souvent, on peut mettre en place les systèmes, parce que ça, c'est du technique, c'est du pratique, mais cela n'augure pas et n'empêche pas de mettre en place un comportement. Et le sujet aujourd'hui que l'on constate, c'est pas forcément, bon, il faut mettre en place nos systèmes, mais bon, c'est aussi la gestion de notre entreprise au sein d'un ensemble environnemental et sociétal. Donc là, effectivement, il faut faire attention à tout ce qui se passe autour, parce qu'on n'est pas seul, mais aussi, on se rend compte qu'en fait, le grand débat, c'est le sujet de l'éthique et du comportement du manager. Et on se rend compte qu'en fait, que toutes les dérives sont liées effectivement à un manque de process de contrôle, que ce soit par les administrateurs ou que ce soit par les systèmes internes, mais qu'il y a une vraie dérive comportementale au niveau du plus haut degré. Et on revient là à un sujet qui a touché, qui est peut-être un mal français, mais qu'on retrouve, et là tu parlais tout à l'heure de la partie anglo-saxonne, qui est la composition des conseils d'administration. Et généralement, ce manque de contrôle vient d'un manque de qualité, d'un manque de rigueur de la part des administrateurs aujourd'hui dans l'entreprise, qui ne font pas leur vrai boulot.
Le conseil d'administration ne joue pas vraiment son rôle. On parle même dans certains cas, et d'ailleurs on l'a vécu notamment dans les grandes entreprises, d'une forme de connivence. Et ce qui retouche, bien sûr, qui se rapproche de ce que vous soulignez, c'est-à-dire de l'éthique et du comportement individuel des individus. Alors, une fois présenté le contexte, on a bien compris ce qu'était le problème et ce qu'était l'objectif, c'est-à-dire une bonne gouvernance. Maintenant, il y a les réponses que vous, ADAE, vous apportez. Alors, ça a été créé, vous avez dit, en 1996, avec, donc, je reviens à ma question de tout à l'heure, par un groupe, j'imagine, d'amis qui ont pensé que c'était vraiment un sujet sur lequel il fallait combattre.
C'est une prise de conscience en 1996, lorsqu'on s'est rendu compte que, autant au niveau des grands groupes, effectivement, il y avait certains textes de loi, enfin, ils existent, Autant vis-à-vis de la moyenne entreprise, il n'y a aucun point de référence, à part le code du commerce, évidemment. Mais derrière, il y a un problème de pratique et de diffusion de pratique. Et le fer de lance reste quand même le CAC 40 avec toutes ces lois, avec cette organisation, cette structuration. Et c'est un bon fer de lance. Maintenant, c'est aussi un excellent exemple de dérive. Et la moyenne entreprise a un vrai problème. Son vrai problème, c'est au-delà de la gouvernance, c'est son développement. C'est qu'on ne peut pas mettre en place une gouvernance alors qu'on n'a pas de développement. Donc en fait, d'abord, le chef d'entreprise de la moyenne entreprise a un vrai sujet de développement. Donc son sujet est concentré sur le développement de son entreprise. Alors après, se pose le sujet de sa durabilité et sa pérennité. Et là, c'est là que nous intervenons. C'est que, en fait, on a, dans nos activités, nous avons une activité de groupe de réflexion. Hein, on fait une doctrine. Et dans ces doctrines, nous recommandons aux chefs d'entreprise, aux cadres d'entreprise, aux dirigeants, quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer leur gouvernance. Et cela sans forcément l'aide de la loi. La loi s'impose à tous. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la soft law, hein, c'est-à-dire c'est quelles sont les bonnes pratiques qui vont permettre aux entreprises d'améliorer leur gouvernance. Et ça, nous avons, nous, là, depuis maintenant 2005, alors 96, c'est sa création, 2005, j'en suis le président, on a alors lancé, on a structuré notre organisation en quatre activités, dont les groupes de réflexion. Et ces groupes de réflexion sont extrêmement techniques et pratiques, c'est-à-dire qu'il y a une explication de la problématique. Par exemple, là, le fascicule que nous sortons, c'est gouvernance et éthique des affaires. Eh bien, si on prend cet exemple-là, c'est comment aider le chef d'entreprise à aborder le sujet de l'éthique des affaires au sein de son organisation. Et là, ce sont ses pairs, des pairs de chefs d'entreprise, de cadres d'entreprise, qui ont réfléchi et qui lui disent, voilà, comment on peut organiser, structurer une démarche qui n'est pas fort contraignante, mais qui lui permet à lui d'aborder par le bon bout cette problématique d'éthique des affaires.
Alors, votre point d'entrée, donc, c'est plutôt le chef d'entreprise. Cela étant, j'imagine qu'il peut y avoir des postulants au poste d'administrateur, notamment d'administrateur indépendant. Donc, c'est deux points d'accès que
vous... Je vais répondre à la question. Peut-être revenir sur ce que disait Daniel. Oui. Je pense que ce qu'on constate, et vous le disiez tous tout à l'heure, l'environnement économique et social a évolué rapidement. Et je pense que nous pensons que le conseil d'administration ne doit pas simplement, comme on constate dans beaucoup d'entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, être une chambre d'enregistrement qui enregistre trois ou quatre fois par an des décisions qui sont prises par le management de la société. Je pense qu'un conseil d'administration, et d'ailleurs c'est sa vocation, c'est quand même dans les textes législatifs, les conseils d'administration sont appelés à être des lieux de réflexion sur la stratégie de l'entreprise, de décision sur le développement de l'entreprise, de contrôle du management, de nomination des mandataires sociaux, parce que c'est une fonction importante des conseils d'administration, et d'information des parties prenantes. Et on s'aperçoit souvent que ces quatre missions fondamentales des conseils d'administration, qui sont inscrites dans les textes de loi, sont souvent un petit peu déséquilibrées dans le fonctionnement courant des conseils d'administration. Alors, pour compléter ce qui a été dit, l'ADAE essaye sur chacun de ces quatre volets, stratégie, contrôle, nomination des dirigeants, information, d'apporter des outils pratiques, concrets, qui sont en fait issus de bonnes pratiques de nos membres ou des sociétés qui veulent bien s'associer à nos réflexions, pour donner aux chefs d'entreprise, notamment celles des PME-PMI, parce qu'un patron ou un administrateur dans une PME-PMI a beaucoup moins de temps à consacrer quand on compte par ce qui se passe dans les grandes sociétés où il y a des directeurs juridiques, des directeurs de la stratégie, des directeurs financiers qui ont des moyens importants pour pouvoir effectivement avoir à un instant T l'état des meilleures pratiques. Dans une PME, une PMI, les moyens sont
plus
limités. Et donc, le fait d'apporter des recommandations basées sur les meilleures pratiques est, je pense, un outil extrêmement intéressant pour nos,
alors,
pour
nos associés. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ces formations qui peuvent paraître pour nos auditeurs un peu lourdes ou importantes, finalement, peuvent être traitées sur une période assez courte de 4 à 5 jours, je crois, c'est cet ordre-là.
Alors, je peux peut-être en dire un mot.
Oui, tout à fait.
Alors, nous avons mis, effectivement, depuis 2 ans en place une formation qui s'étale sur 6 modules de 5 heures. Donc 5 heures dans un cas d'un calendrier qui s'étale sur à peu près un trimestre. On peut prendre un samedi matin, 5 samedis matins au cours d'un semestre ou d'un trimestre, et qui balaye en fait les fondamentaux tels que je les ai rappelés tout à l'heure. 1, la stratégie, comment on s'élabore, comment on fait vivre la stratégie d'entreprise, 5 heures. Les outils financiers et comptables, parce que souvent beaucoup de chefs d'entreprise ont étudié la comptabilité, mais l'ont parfois un peu oublié. Qu'est-ce que c'est qu'un compte d'exploitation?
La comptabilité en partie trouble.
En partie trouble. Comment piloter par les risques? C'est effectivement des systèmes de management modernes et qui permettent d'avoir une bonne transversalité dans le pilotage de l'entreprise. Donc, 3e module. Quelle est la responsabilité civile et pénale des administrateurs? C'est souvent des points qu'on oublie quand on est dans un conseil d'administration. On peut être traîné devant des tribunaux pour un certain nombre de défaillances d'entreprise, notamment tout ce qui touche au code du travail.
Oui. Enfin, il ne s'agit pas de leur faire peur, mais simplement de leur faire prendre conscience,
de les former, de leur faire prendre conscience. Un autre module qui est l'animation des conseils d'administration. Président d'un conseil d'administration, on n'est pas le seul à animer en fait la vie d'un conseil d'administration. Et puis, je pense qu'il y a un dernier module qui nous a semblé extrêmement important, qui est la responsabilité sociétale, pour répondre à ces impératifs d'élargissement des parties prenantes dont je parlais tout à l'heure, et qui permet effectivement d'avoir une vision un peu plus éclairante sur la pérennité de l'entreprise dans son contexte social, environnemental, environnement durable, etc.
Bon, alors, excellente présentation de vos 5 actions. Daniel Korfmatt, donc les autres actions que vous conduisez, notamment, vous avez quelque chose qui est assez surprenant, on s'appelle le grand café de la gouvernance.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons 4 activités fondamentales. Là, on vient de parler de la formation. Je rappelle quand même que c'est la première formation en France d'administrateurs d'entreprise et certifiée. La deuxième, ce sont effectivement l'organisation de 12 événements par an et qui sont des événements d'information. Là, on parle d'information. Et dans cette information, on a différents types d'informations sur les méthodes de bonne gouvernance, sur des questions que chacun peut se poser dans son job ou par rapport à une situation. Sur la bonne gouvernance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous avons le grand café de la gouvernance. Et là, c'est ce qu'on peut dire, c'est un peu au top de l'ensemble de nos réunions. C'est l'invitation d'un témoin qui nous aide à réfléchir un peu plus fondamentalement sur des sujets comme l'éthique, comme le capitalisme, comme les crises. Et donc, effectivement, et généralement, le témoin, c'est une personnalité. Nous avons invité déjà des philosophes, nous avons invité Jacques Attali, nous invitons Jean Perlevade. Et justement, sur le sujet de la crise. Alors, la crise en tant que telle remet en cause, un, le système économique, le système même, voire capitaliste. Mais le sujet, c'est nous, dirigeants, comment doit-on gérer et comment peut-on appréhender cette problématique de crise qui, aujourd'hui, devient quasiment le modèle dominant. C'est-à-dire que ce n'est plus, la crise n'est pas quelque chose de ponctuel. Maintenant, c'est quelque chose effectivement de ponctuel, mais qui revient quasiment tous les 2 ans. Et donc, ce grand café de la gouvernance, c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'approfondissement avec des gens de grande qualité.
Bien. Alors, je crois qu'on a vu à peu près maintenant quelles étaient les missions de la DAE. On a déjà bien avancé dans cet entretien. Y a-t-il de votre côté un point, un message fort que vous voudriez adresser à nos auditeurs qui se préparent peut-être en secret d'ailleurs, pour remplir des rôles d'administrateur ou pour les chefs d'entreprise, petites et moyennes, qui sont confrontés, j'imagine aussi, aux problématiques du développement, comme vous le rappeliez Daniel, mais aussi à la vie de leur conseil d'administration et au soutien qu'ils peuvent en obtenir. Alors, Daniel, quel est votre message ?
Oui, alors le premier, c'est qu'on constate avec toutes nos études depuis maintenant 1996 qu'une société qui met en place une bonne gouvernance est une société qui est plus pérenne que les autres et qui ne termine que très rarement en dépôt de bilan. Donc, il y a un vrai intérêt. Alors, c'est un immatériel, mais aujourd'hui qui compte. La deuxième chose, c'est que l'association des dirigeants et administrateurs d'entreprises qu'on représente ici, c'est une association qui intéresse tout le monde, les chefs d'entreprise, les dirigeants, qui intéressent évidemment les administrateurs ou ceux qui souhaitent l'être, et aussi parce que, au même titre qu'on parle de bonne gouvernance qui concerne les stakeholders, c'est la bonne gouvernance concerne même les cadres d'entreprise. Donc ça veut dire que je suis cadre dans une entreprise, que je sois dans les RH, dans les systèmes d'information, que je sois dans les finances ou autres, je suis intéressé. Et moi, qu'est-ce que je peux apporter dans mon entreprise, dans ma moyenne entreprise, ou dans, en termes de bons réflexes de bonne gouvernance? Ça, c'est le point. Et aujourd'hui, dans la formation que nous faisons, ça n'intéresse pas uniquement les administrateurs. Ça intéresse évidemment les chefs d'entreprise pour professionnaliser un peu le mode de fonctionnement de leur conseil. Ça intéresse toutes les personnes, tous les cadres qui souhaitent à un moment donné savoir jusqu'où va mon rôle futur ou actuel d'administrateur, jusqu'où va ma liberté, jusqu'à mon rôle. Puis la troisième chose, ça intéresse toute personne, femme ou homme, qui souhaite à un moment donné partager son expérience avec une démarche structurée, à des PME, parce que dans la PME, ce qui compte le plus, c'est évidemment mon parcours, peu mes diplômes, mais essentiellement mon parcours, l'expertise que j'ai et l'affectio societatis par rapport à la problématique de la PME.
Marc, un dernier mot.
Oui, moi j'aurais un message qui complète celui qui vient d'être exprimé par Daniel. Je pense que pour les PME, PMI, qui ont encore beaucoup de chemin en France à faire vis-à-vis de cette cible d'une gouvernance exemplaire, la composition des conseils d'administration est une décision extrêmement importante et lourde de conséquences. Et la DAE préconise de façon assez forte que des administrateurs indépendants siègent dans les conseils d'administration. Il y a des conseils d'administration de PME, PMI, c'est 5-6 personnes au maximum. Le fait d'avoir au moins un administrateur qualifié indépendant au sens de la charte de l'indépendance des administrateurs dont on parlait tout à l'heure, un ou deux administrateurs indépendants peuvent apporter un éclairage, une expérience, des expériences vécues dans d'autres cas de figure de société qui peuvent être extrêmement riches pour une PME, PMI, avec ce transfert de connaissances de risque et d'impulsion que la connaissance du monde extérieur et de son environnement peut apporter à une société. Donc un des messages, c'est réfléchissez bien à la composition de vos conseils d'administration et dotez-vous des compétences, et notamment d'administrateurs indépendants, pour vous aider à franchir ces caps qui sont parfois difficiles.
Merci Marc Chambaud. Donc, un dernier mot au président.
Juste pour dire que les PME ont peur de la notion d'indépendance. Et aujourd'hui, c'est pas un sujet. La personne que vous recruterez dans vos conseils ne sera pas indépendant. C'est quelqu'un qui n'a pas de lien capitalistique, mais au contraire, qui, avec l'affectio societatis, avec son expérience, est complètement intégré au développement et à la pérennité de votre entreprise. Donc, pas peur pour l'administrateur indépendant d'entreprise.
Pas de peur. Donc, c'était les convictions de l'ADAE, l'Association des dirigeants et des administrateurs d'entreprise, par rapport à cet objectif majeur qui est d'améliorer la gouvernance et particulièrement la bonne gouvernance dans les entreprises. Cette professionnalisation du fonctionnement interne des entreprises et des PME est devenue un enjeu de compétitivité et de performance économique majeur devant les défis de croissance et de redressement de notre commerce extérieur. C'était votre réponse. Merci pour défendre cette noble cause. Merci messieurs.
Merci, merci de nous avoir invités.
Thank you.